franceinter.fr.
Étudier la mémoire des rats pour comprendre la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui à la une de la science.
Souviens-toi, en fermant les yeux.
On ne retrouve que des détails, tous ces petits riens dont on parle rarement. Et on revit certains moments forts, même si on n'a pas vraiment envie. C'est tout ça mis ensemble qui restitue une présence.
Voilà, ça c'est un extrait du film Memento et l'évocation de la mémoire épisodique dans ce film de Christopher Nolan. Et pour la première fois, des chercheurs de l'université de l'Indiana pensent avoir démontré que les rongeurs, comme les hommes, sont capables de rejouer mentalement certaines scènes du passé. Cette mémoire épisodique est celle qui fait le plus défaut aux malades d'Alzheimer et la compréhension de ces mécanismes chez le rongeur pourrait donc mener à de nouveaux traitements. Et on en parle, Axel, avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec le neurobiologiste Karim Benchenan. Vous êtes chercheur pour le CNRS en neurosciences à l'ESPCI, c'est l'école supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris. Vous aussi, vous aimez jouer avec la mémoire des rongeurs. Mais parlons de l'homme. Comment est définie cette mémoire épisodique et à quoi est-ce qu'elle nous sert à nous ?
La mémoire épisodique, c'est la mémoire du sens commun quand on parle de mémoire. C'est la mémoire des événements que l'on a vécu et on peut s'en souvenir en se remémorant des informations comme quelle information, où, quand, comment, et tout le ressenti qui va avec.
Pourquoi est-ce qu'il est étonnant que des animaux, et là des rongeurs, pourraient avoir les mêmes capacités que nous ?
En fait, la question c'est, on sait qu'il y a différents types de mémoire chez l'homme, simplement parce qu'on a observé des cas de lésions où certaines mémoires étaient perturbées et pas d'autres. Et notamment les lésions de l'hippocampe perturbent chez l'homme explicitement, enfin en grande partie, la mémoire épisodique. C'est-à-dire qu'avec des lésions dans l'hippocampe, comme le personnage dans Memento, on se souvient plus des rencontres qu'on fait, des personnes, des endroits qu'on voit. Mais par contre, on est capable de faire des apprentissages. Par exemple, on est capable de faire des apprentissages moteurs. Donc on a observé que chez l'homme, on a différentes formes de mémoire qui sont sous-tendues par des structures cérébrales différentes. Et donc on les étudie pour comprendre comment ça se passe, on essaie de comprendre comment ça se passe au niveau, quelles structures cérébrales sont impliquées, quels sont les neurones et comment des neurones qui communiquent entre eux peuvent sous-tendre des fonctions aussi complexes que la mémoire épisodique.
Mais chez l'homme c'est simple, il suffit de discuter avec la personne pour savoir quelle est sa mémoire. Comment on travaille chez le rat pour savoir quel type de mémoire existe ou n'existe pas ?
Voilà, donc après on peut essayer de parler le langage des rats, donc visiblement on apprendra à parler le langage des bonobos aujourd'hui. Mais les rats, on n'a toujours pas réussi à comprendre. Donc simplement on essaie de placer les rats dans une situation où leur comportement nous indique les processus cognitifs sous-jacents. Et c'est un peu tout le problème. C'est par exemple, on les place dans des labyrinthes où on met de la nourriture à certains endroits. Et le fait de se déplacer pour retrouver la nourriture à un endroit, c'est ce qu'on essaie de quantifier comme une sorte de déclaration. Je me souviens que la nourriture est ici et je le fais en naviguant.
C'est ce qu'ils ont fait là dans l'étude ou pas ?
Là, c'est indirectement, c'est un peu ça. C'est en regardant le comportement, on essaie de comprendre quelle est l'action cognitive nécessaire pour résoudre cette tâche-là ? Et c'est là où le diable réside dans les détails.
Mais je pense qu'on peut essayer d'expliquer ce protocole, même s'il est un petit peu complexe. Ça va être votre défi de nous faire comprendre comment le chercheur a mis en place un protocole qui permet de dire à la fin, je pense que la souris a rejoué mentalement une suite d'événements.
Oui, alors c'est toujours pareil parce que pour faire un apprentissage à des rongeurs, faut imaginer faire un apprentissage chez un bébé, c'est on comprend pas ce qu'il dit, on comprend pas ce qu'il fait et il comprend pas ce qu'on lui demande. Donc on doit le mettre dans des situations et là en l'occurrence, ils ont mis les animaux dans une petite boîte où ils ont présenté successivement différentes odeurs. Donc les odeurs A, B, C, D. Et à un moment, ils ont sorti l'animal, ils l'ont mis dans une autre boîte. Et dans cette autre boîte donc de test, l'animal devait choisir entre deux odeurs. Et pour avoir une récompense, il devait choisir l'avant-dernière odeur qui avait été présentée dans la liste.
Ah oui, ça c'est complexe quand même.
Donc ça commence à être complexe. Et ils ont rendu la tâche encore plus complexe, qui est en fait, il y avait deux boîtes. Et dans une boîte, l'animal devait se souvenir l'avant-dernière odeur pour avoir une récompense. Et dans l'autre boîte, il devait se souvenir la quatrième odeur avant la fin.
Donc ça demande du temps pour que l'animal comprenne aussi ce qu'on lui demande, j'imagine.
Alors oui, c'est un des grands problèmes quand on essaie de comprendre la mémoire épisodique, parce que chez l'homme, c'est instantané. C'est-à-dire qu'il y a un événement et on s'en souvient. Et là, pour faire cette tâche-là, il faut à peu près, chez le rat, donc en l'occurrence, une dizaine de jours.
Ah oui.
Donc en fait, c'est beaucoup de répétitions et c'est une des grosses questions que l'on a, c'est est-ce que un comportement qui semble correspondre à ce que nous, on décrit comme une mémoire épisodique qui est instantanée, est-ce qu'après un apprentissage de 15 jours, les mécanismes neuronaux sont les mêmes? Donc c'est un peu une des questions que l'on a et auxquelles on n'a pas encore de réponse.
Si on sort un peu du laboratoire, est-ce qu'il y a des comportements dans la nature qui permettent d'imaginer que les animaux ont ce type de représentation et de mémoire épisodique?
Ben non, c'est tout le problème. Le plus proche, c'est lorsque, par exemple, si on pouvait enregistrer l'activité des neurones en lien avec chaque odeur, et juste avant la réponse, on voyait la séquence de neurones s'activer, on pourrait dire il rejoue la séquence. Mais même là, on pourrait dire le cerveau rejoue, l'activité des neurones rejoue cette séquence, mais on ne pourrait toujours pas conclure que c'est de la mémoire épisodique, parce qu'il y a la composante auto-énergétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer que l'animal a conscience, enfin le rat a conscience explicitement de la séquence des événements. Même si au niveau neuronal, on arrive à le voir, et à dire que la qualité de la séquence décodée prédit le choix de l'animal. Ce qui n'a pas été fait en l'occurrence dans cette étude. Mais
pour vous, cette étude, elle est concluante? Ils ont quand même réussi à démontrer quelque chose?
En gros, c'est toujours pareil. Ce qui n'est pas concluant, c'est démontré pour la première fois. Donc, en règle générale, en science, sur les premières fois, il y a toujours une histoire. Mais ce qui est très clair, c'est que cette étude montre des capacités cognitives et de mémoire très évoluées. La question du fait est-ce qu'il y a une seule stratégie qui est de rejouer mentalement dans la mémoire épisodique la séquence pour répondre à la question, ça n'est pas le cas, parce qu'on peut utiliser, par exemple, l'animal utilise sa mémoire de travail pour résoudre la tâche immédiatement, il la stocke en mémoire à long terme et il l'utilise. Donc on arrive toujours à trouver des mécanismes plus simples pour résoudre une situation qui paraît plus compliquée.
On en parlait au début, la maladie d'Alzheimer est derrière tout ça. C'est vraiment une piste intéressante pour vous d'essayer de chercher à prouver qu'on a la même mémoire et que donc on peut tester des médicaments sur des rongeurs?
En fait, tout le problème, il y a deux choses. La maladie d'Alzheimer, c'est trouver pourquoi il y a une mort neuronale. C'est une question qui n'est pas... Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a des déficits très spécifiques de la mémoire de la maladie d'Alzheimer. Si on veut trouver des traitements, il faut essayer de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents et qui sont perdus. Et d'être au plus proche du type de mémoire qui est perturbé dans la maladie des Alzheimer est certainement la meilleure stratégie pour évaluer l'efficacité de traitements potentiels.
Florence Levrero, je vous voyais réagir quand on décrivait la méthode avec les petites boîtes. Vous avez fait ça sur les bonobos ou pas? J'ai l'impression qu'il y avait des souvenirs qui rejaillissaient.
À deux reprises en fait, parce que actuellement je travaille sur la communication aussi chimique chez les bonobos. On a une étudiante en thèse qui travaille sur cette question-là et on a aussi présenté différentes odeurs et avec des tests de choix. Et pour l'instant, c'est étonnamment, il semblerait que le sens de l'odorat, on s'attendait à ce que ce soit pas le premier sens utilisé, mais ils ont même l'air, en tout cas dans les conditions dans lesquelles on les a testés, ça n'a pas l'air de les intéresser. On leur a même présenté des odeurs de panthère.
Ah oui.
Et alors, on est vraiment en pré-analyse, mais ils semblent pas réagir plus fortement à des odeurs d'individus familiers ou carrément étrangers, voire d'une autre espèce. Ouais. Et la deuxième réaction, c'est parce que en fait, d'un point de vue expérimental, ce que je fais en communication acoustique où on fait des tests de repasse, peut-être que j'expliquerai ça tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose, c'est qu'on veut poser des questions à des animaux et on n'a pas le même mode de communication, donc il faut trouver des moyens pour les tester et tester leurs réponses.
Chez Limassi, catégorie alors,
jolie réaction. Oui, c'est ça, parce que pour moi c'est très intéressant parce que aussi dans la nature, on voit effectivement qu'ils se rappellent chaque année de quel type d'arbre est en fructification au bon moment.
Ah oui.
Et donc, ça rentre très, très bien dans mes recherches que j'essaie de comprendre comment il arrive à se rappeler au bon moment dans l'espace et dans le temps où sont les arbres en fruits qui peut-être sont en fruits pour une semaine ou deux. Et donc, on étudie aussi la mémoire épisodique en nature.
Karim Benchenan,
c'est un
pour
peu
conclure.
Tout le problème, c'est qu'il faut trouver un comportement qui est écologiquement valide pour l'animal, pour essayer de le tester. Si on teste l'animal avec des tablettes tactiles, un rat, une tablette tactile, ça n'a pas de sens. Mais par exemple, des expériences chez l'oiseau, on trouvait que comme il cachait sa nourriture, en fait, on s'apercevait qu'il avait des compétences extraordinairement complexes parce qu'on arrivait à trouver un comportement qui a un sens pour lui.
Merci beaucoup, Karim Benchenan, pour cet éclairage sur cette étude qui vient de paraître. Merci, Axel.
Et à demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un record ahurissant. Des physiciens de l'université d'Uppsala en Suisse ont réussi à chauffer de l'eau à 100 000 degrés Celsius, et cela en moins d'une picoseconde, soit un millionième de seconde. Pour réaliser l'exploit, un laser à rayon X a été braqué sur de l'eau liquide et s'est transformé instantanément en plasma. Les chercheurs expliquent que cette prouesse technique pourrait être utilisée en recherche fondamentale pour étudier de nouvelles molécules isolées. petits mais costauds, ces anticorps. Des chercheurs du Maryland viennent de découvrir un nouveau type d'anticorps produit par les chameaux et les requins qui pourraient aider à combattre le cancer. De par leur très petite taille, ils pourraient passer la barrière hémato-encéphalique et permettre à certains médicaments anti-cancer d'accélérer facilement le traitement. D'autres maladies pourraient être traitées. Un premier médicament visant à réguler les désordres de coagulation sanguine devrait être approuvé cette année. Et puis non, les octopus ne viennent pas de l'espace. Une étude un peu farfelue fait le tour des réseaux sociaux actuellement et suggère que certaines formes de vie terrestre viennent d'ailleurs. 23 chercheurs internationaux ont tenté de corréler plusieurs phénomènes énigmatiques dans l'histoire de la biodiversité, comme l'explosion de la vie au Cambrien, l'intelligence complexe des céphalopodes avec les bombardements de météorites. L'étude qui a fait beaucoup de bruit reste cependant à prendre avec de grandes pincettes. Certains spécialistes ont même évoqué l'idée d'un gros canular.